Vous entrez dans les ateliers de la nuit. L'atelier du son, quatrième saison. Avant de renaître sous une nouvelle forme à la rentrée, Thomas Baumgartner a fait dans l'atelier entendre le son dans les vies, celle des auteurs, des créateurs. L'atelier du son tous les vendredis à 23h vous propose depuis septembre d'entendre des histoires vraies de son. Des témoignages à la première personne, anecdotes, aventures, dont le son est le centre. Il y a eu les voix des écrivains, Olivier Cadiot, Patrick Bouvet ou encore Alain Weiss, mais aussi des musiciens, des techniciens, des journalistes. Thomas Baumgartner s'intéresse ce soir aux vôtres histoires. Il fait place au son dans votre vie, vous qui écoutez. Il a recueilli vos histoires de son. Une histoire qui vous est arrivée ou dont vous avez été témoin. Une histoire vraie où le son joue un rôle central, puisque le son façonne nos souvenirs. Je vous laisse donc à l'écoute, aux côtés de Thomas Baumgartner, de vos histoires de son.
Il était une fois un son qui m'a vraiment fait peur. Là où la frontière entre le dedans et le dehors n'existe plus du tout. J'étais en train de travailler un son, une musique. Évidemment, il n'est pas fini. Je vais vous faire écouter. Je suis là, le casque sur les oreilles, parce qu'il y a ma petite qui est à côté, je veux pas la déranger. J'entends, je sais pas où, quelque chose comme un crac, plutôt quelque chose comme ça. Et je sais pas si c'est dans le son ou si c'est à l'extérieur. J'enlève le casque, je regarde autour de moi, on souffle un coup, tout va bien. J'écoute, puis j'entends rien. Je remets le casque. Et là, je sens quelque chose qui monte à l'intérieur. Comme si, finalement, j'étais habitée. Comme si il y avait des présences autour de moi et que j'étais avec eux, mais que je pouvais pas les voir. Et là, j'entends encore derrière quelque chose comme ça. Et puis comme des pas qui grincent sur le parquet, qui s'approchent. J'enlève le casque, je me retourne, je sens mon cœur qui s'accélère brutalement. Je me dis, oh, il y a quelqu'un chez moi. Je vais partout dans mon appartement, j'ai un balai à la main. Je fouille partout, il n'y a personne. Mais là, je suis vraiment flippée. Comme si peut-être ce que j'étais en train de convoquer dans le son... Peut-être que ça existait vraiment, là, à l'extérieur, que ça s'était vraiment matérialisé. Je me dis, non, mais arrête de délirer. Bon, allez, on prend son courage à deux mains. On reprend le son. Ces présences sont là, si fortes. J'arrête. J'ai essayé d'écouter le silence. Le silence, c'est vraiment étrange.
Bonsoir à vous. Il y avait quelque chose à faire avec les histoires. Il y a que ça que vous voyez, les histoires racontées à la première personne et partagées à l'unité. Comme on est dans un atelier du son, il fallait que ce soit des histoires de son vrai compte réel, souvenir, anecdote, choc fondamental dont le son est le héros. Ils sont quelques-uns à en avoir raconté tout au long de l'année, hommes et femmes dont le son est le métier ou le milieu naturel, musiciens, écrivains, poètes. Et d'ailleurs, ces histoires se retrouvent en ligne. On les met sur franceculture.fr, bien sûr. Mais là, pour cette dernière, avant de nouvelles aventures, c'est à vous qu'on a demandé des histoires vraies de son. Vous nous avez écrit, vous nous avez téléphoné et laissé des messages. Vous nous avez envoyé votre voix. Merci à vous et bienvenue dans votre atelier du son.
Il était une fois en Indonésie, j'étais partie en voyage plusieurs mois en Asie et j'avais décidé en Indonésie de faire un stage de méditation. Donc c'était en pleine campagne au sud de Jakarta et c'était un stage de méditation qui durait 10 jours consécutifs. Donc on était plusieurs, il y avait des hommes, des femmes et il y avait des règles à respecter. Donc on ne devait pas lire, on ne devait pas prendre de photos, on devait manger à des heures bien définies. On méditait à peu près 10 heures par jour dans une grande salle. Il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et la chose en fait terrible, c'est qu'il n'y avait aussi pas le droit de parler. On n'avait pas le droit non plus de se regarder entre stagiaires. Toute communication, qu'elle soit verbale ou physique, était interdite. J'étais la seule française, les autres stagiaires étaient indonésiens. Tous les soirs, on avait un enseignement pour comprendre, pour avoir la technique pour méditer. Comme l'enseignement est en anglais, et moi comme je ne comprenais pas très bien l'anglais, on m'isolait tous les soirs pendant une heure dans une petite pièce. Et en face de moi, il y avait un lecteur de CD. Et là, il y avait une voix qui me parlait. Finalement, c'est la seule voix qui est rentrée en contact avec moi pendant 10 jours.
Les 2 jours qui vous restent sont des jours de méditation très sérieux. Veillez à en maintenir la continuité jour et nuit, sauf pendant les périodes de sommeil profond. Sinon, jour et nuit, n'ayez aucun contact avec les autres étudiants. Continuez à travailler. Continuez à travailler seul. Faites subir à votre esprit une opération très profonde, une véritable opération chirurgicale. Ôtez-en des complexes très profondément enracinés et libérez-vous. Plus vous en notez, plus vous vous libérez de vos souffrances.
Si c'était à refaire, je ne le referais pas ce stage.
4 Lucas. Ce soir, histoire de son dans l'atelier.
Il était une fois le son de mon réveil. Chacun le sien. Le chant des oiseaux, des pas discrets dans la cuisine, un enfant qui appelle, un bip sonore, des mots doux recoulés par son ou sa chérie, voire même un smartphone. Le son de mon réveil ressemble à un opéra composé par Pierre Henry. Il se joue dans l'une des plus vastes cours d'immeubles de Paris et, malheureusement pour moi, la représentation est quotidienne. Le Corbeau fou est le premier à entrer en scène au lever du soleil. Puis, dès la fin de son solo, des artistes se donnent le la pour entonner cette œuvre unique pour vie d'ordure, bouteille jetée, poubelle traînée et parfois même en guest star, une ponceuse en très très grande forme. Chers amis, il est 6h30. Il est temps pour vous de découvrir le son de mon réveil. Si ça fait mal. Ah oui, 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 oui. Ça fait très très mal. Bonne journée.
C'est le dernier atelier du son de la saison, on m'a dit. On écoute des histoires vraies de son, on m'a dit.
Il était une fois une vieille amie. Enfin, vieille, pas dans le sens âgée, dans le sens je la connais depuis très longtemps, qui m'a invité à aller passer le week-end avec des amis à elle dans une maison que ses parents ont en Haute-Ardèche. Mais c'est vraiment en Haute-Ardèche, c'est un tout petit village, voire ça pourrait même dire un hameau. C'est vraiment perdu dans la montagne. Quand je dis que c'est perdu, c'est que tu peux facilement tomber nez à nez avec des sangliers qui sont dans le jardin. Voilà, donc... Et donc là, on a passé l'après-midi à ramasser des champignons, à ramasser des châtaignes. Enfin voilà, on voulait se profiter de la nature, faire de la crème de marron. Voilà. Et puis, on a quand même profité de ce lieu-là pour faire la fête. Et à un moment, la fête se termine. Et là, je vais me coucher. Et là, donc on est en pleine Haute-Ardèche. Je me couche. Et que je ferme les yeux... ou que je garde les yeux ouverts, ça changeait rien du tout. Je voyais rien. Mais c'était pas ça qui était le pire, en fait. Le pire, c'est que j'entendais que le silence. Et j'entendais tellement le silence que j'arrivais pas à m'endormir. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de mettre des boules de caisse.
David Brown.
Il était une fois un enfant qui avait une chambre juste au-dessus du salon où ses parents avaient l'habitude de regarder la télévision tous les soirs. Il se trouve que cette chambre était exactement au-dessus de la porte qui séparait la cuisine du salon et que cette porte avait pour fâcheuse habitude de claquer. Et l'enfant, quand il essayait de s'endormir, entendait régulièrement cette porte claquer fort, ça faisait trembler les murs et ça le dérangeait un peu. Les années passèrent et cet enfant partit de sa maison. Il finit par avoir son propre appartement dans le 18e arrondissement de Paris. Il avait complètement oublié cette histoire de porte. Et un jour qu'il était dans un demi-sommeil, sur le point de s'endormir, il entendit dans le hall de son immeuble un claquement de porte qui était en tout point similaire dans son son à celui qu'il entendait pendant son enfance. Et pendant une fraction de seconde, un court instant, cet adulte eut l'impression d'être revenu en enfance. Il se réveilla de son demi-sommeil, s'apprêtant à crier « Papa et maman, vous pourriez faire moins de bruit !» Il se rappela tout d'un coup qu'il avait 25 ans, qu'il était seul dans le 18e arrondissement de Paris, et que ces années où la porte claquait et le dérangeait la nuit étaient bien loin, et en même temps toujours aussi délicieuses. Voilà, c'était mon histoire de son. J'espère qu'elle vous a plu. Au revoir.
C'était une fois l'église Saint-Georges à Faucogny. L'été de mes 10 ans, j'y ai passé de nombreuses heures. C'était ma cabane secrète. Je savais que là-bas, personne ne penserait à venir me chercher. Située à flanc de montagne, on y entend dans son silence le chant des oiseaux, des grillons, du vent, mais aussi le village. J'aimais beaucoup le bruit des portes en bois qui bordent chaque rangée de bancs et claquent au rythme des arrivants. Et lorsque je me promenais dans la forêt, l'Angélus me prévenait qu'il me fallait redescendre pour le dîner. Mais surtout, ce qui m'émerveillait, c'était l'orgue. Majestueux, immense, perché, dominant les ouailles. Cet été-là, j'allais à toutes les cérémonies, mariage, baptême, messe, enterrement, rien que pour le plaisir d'entendre l'orgue chanter. J'étais fascinée par cet instrument incroyable, qui me semblait être une machine de fiction, pouvant nous emmener dans une autre dimension, comme si l'église devenait un vaisseau spatial, l'orgue en étant le cockpit.
Emmanuel Gibello. Il était une fois Communio, une pièce pour orgue composée en 1957. Elle me fut révélée, voici environ 2 ans, alors que je déambulais sur les chemins enchevêtrés du World Wide Web, je suis tombé sur cette annonce. Olivier Leguet, organiste, sera au clavier de l'orgue de Nantua, aux sonorités exceptionnelles et classées monument historique. Il interprétera des œuvres de Gaston Lizère, Antoine Reboulot et Philippe Roland, compositeur et organiste français du XXe siècle. Philippe Roland. Ce nom ne m'était pas inconnu et pour cause, c'était celui de mon grand-père. Qu'il joua de l'orgue, je le savais. Il tint l'orgue Cavaillé-Col de la paroisse Saint-Antoine des 15-20 dans le 12e pendant plus de 40 ans. Il était également professeur de musique à l'Institut National des Jeunes Aveugles. Lui-même, atteint d'une rétinite pigmentaire depuis son plus jeune âge, il vivait au cœur d'un monde de sons. Peut-on imaginer à quel point il est possible de voir sans les yeux le relief du monde qui nous entoure dès lors que l'on prête attention à notre environnement sonore ? Mais qu'il composa une œuvre pour orgue, je n'en avais jamais entendu parler. Aussi, décidai-je d'aller écouter le concert donné par Olivier Leguet. Je ne pus malheureusement pas m'y rendre, mais l'on me fit parvenir un enregistrement amateur. Sans plus attendre, je lançai la lecture du fichier MP3. Lorsque les premières mesures de communion résonnèrent, je ressentis une vive émotion. Les notes, une à une, m'enveloppaient, me plongeant doucement au cœur de la mélodie. C'était comme si l'expression du monde, telle qu'il l'avait ressentie, venait à moi. J'avais le sentiment d'avoir une compréhension pleine et entière de l'œuvre. Cette musique me parlait. Ce n'est pas le souvenir de mon grand-père qu'elle m'évoqua d'abord, mais plutôt l'écho universel et intemporel du souffle de la vie. Bien sûr, me revint ensuite des souvenirs de mon enfance, les escaliers étroits et escarpés qu'il fallait emprunter pour rejoindre mon grand-père, derrière l'orgue dont il avait la charge durant les offices, la petite sonnerie aiguë qui, lorsqu'elle retentissait, lui indiquait qu'il devait commencer à jouer, ces tirants de registres aux pommeaux en bois usés par le temps, qu'il tirait ou poussait, les agençant de façon mystérieuse afin que les jeux de l'orgue délivrent les sons désirés, le pédalier sur lequel ses pieds dansaient avec une dissociation qui me laissait pantois. Et tous ces instants si magiques où je suivais la messe de minuit du haut du grand orgue. L'audition de cette pièce d'orgue fut pour moi un moment de plénitude. Je me suis senti en harmonie avec le passé, le présent et le futur. Chacun le sait déjà, mais j'en suis sûr désormais, le son, organisé en symphonie, se mue en œuvre d'art et éclaire nos existences. Pierre Limousin, le 19 juin 2015.
Il était une fois un photographe, moi, et un pianiste de jazz, Jean-Yves, qui habite à Genève et qui ne se connaissent pas. Et un matin, je suis invité à une radio nationale de la Maison Ronde à venir parler en direct à 5h du matin. Alors je monte à Paris, je passe à la radio, je suis très intimidé parce que c'est ma deuxième... expérience de radio, je découvre tout ce que je connaissais en tant qu'auditeur et je découvre tout l'envers du décor. L'émission se passe, un peu maladroite en ce qui me concerne, et je quitte la radio avec des étoiles dans les yeux, ou plutôt dans les oreilles, et je vais, comme c'est à côté, voir le soleil se lever sur la tour Eiffel. Et arrivé devant la tour Eiffel, je sors mon téléphone et je vois un message d'un monsieur à Genève qui avait écouté l'émission et qui me remerciait pour ce que j'avais dit et parce qu'il s'y était retrouvé et qu'il avait beaucoup aimé. Et par contre, il n'avait pas pu profiter de mes photographies puisqu'il était non-voyant. Alors à ce moment, je prends mon téléphone un peu spontanément et j'enregistre une carte postale sonore de ce que je voyais à ce moment-là en regardant la tour Eiffel, le soleil se lever. Et en plus il faisait très beau, donc c'était très descriptif de beauté de la lumière et du ciel et toute cette dimension qu'il n'avait peut-être pas et que, comme je n'avais pas d'aveugle dans mes connaissances, je ne savais pas ce qu'il pouvait percevoir de ça. Et il me répond, très touché, et me rencarde à un arrêt de tram un matin. Alors je rentre à Genève et quelques jours plus tard nous nous retrouvons à un arrêt de tram. Je le retrouve évidemment, je le reconnais grâce à sa canne Et il me prend le bras et on s'engouffre dans un bistrot. Et on se parle pendant plus d'une heure de nos passions communes pour le jazz et pour la radio. Et c'est comme si on se connaissait depuis longtemps, parce que comme on écoutait un peu les mêmes émissions, et bien on avait beaucoup de choses en commun, donc c'était passionnant. Et un jour, je fais un cours de photo et j'emmène mes élèves voir Jean-Yves. Et je leur demande de lui décrire leurs images. Et en échange, Jean-Yves a improvisé de la musique sur ces images, comme il le percevait. Et je crois que depuis ce jour, j'ai un rapport au regard et au son qui ont complètement changé. Tout ça grâce à une petite émission de radio, un matin, à 5 heures. C'était une très belle rencontre et on est amis depuis plusieurs années. On se voit quasiment toutes les semaines, je lui prête mes yeux. Et lui me rend sa musique et sa joie de vivre en retour.
Enrique Pardo. Tout est vrai, tout est vérifié. Ce soir, sur France Culture, ce sont les histoires de son dans l'atelier du même nom.
Il était une fois une femme et un homme qui ont commencé à entretenir une relation physique, en tout cas sensuelle, à distance, avec des enregistrements de leur voix lisant des lettres qu'ils s'écrivaient. Et puis il a fallu se voir. Il a fallu se voir pour toucher l'autre physiquement. Alors le garçon a proposé. Alors la femme a obéi parce qu'après tout c'était un jeu et quand l'homme est arrivé, il lui a demandé de ne pas parler, qu'il ne se parlerait pas tant que ça n'était pas absolument nécessaire. Et il a mis un casque sur ses oreilles. Et dedans il y avait There is a Ghost de Marianne Faithfull. Et il l'a emmené se promener en aveugle dans les rues de Paris. Et il lui a fait sentir... Il a fait sentir son corps à lui, il a fait sentir les arbres, l'odeur de Paris, des villes. Il lui a fait toucher des murs, des choses. Et cette chanson résonnait dans sa tête et ses oreilles comme jamais elle avait entendu de la musique. Et depuis cette chanson est intimement liée à... Au fait d'être tombée amoureuse, je crois. Voilà.
Oh my lover, oh my lover, never was there another. Where has my lover man gone?
C'était une fois un son. Ce sont les bruits de pas d'un jeune homme qui fuit dans la ville. Rapidement, on entend la division des sons de la ville. Les bruits des pas du jeune garçon qui fuit. Et la division des bruits s'ouvre sur le monde de la ville. Le jeune garçon court, il court, il ne sait plus où aller. Le jeune garçon a un gage. You can always get what you want. Il chante et il court en même temps. Il chante très fort et il doit chanter, il ne doit pas s'arrêter de chanter. Il ne doit pas interrompre cette chanson, il ne doit pas la rompre, il a un gage. Je le vois, il s'engage dans un labyrinthe de bâtons, un labyrinthe qui rapidement divise le bruit de ses pas et les sons de sa chanson. Maintenant, je vois le jeune garçon qui vole. Il vole les pieds sur terre. On entend une boucle sonore avec les boucles de sons divisées de la ville et puis les sons de sa voix. Sa voix qui chante « You can always get what you want ». Et près de moi, j'entends un homme. Un homme dit « J'ai perdu ma cravate ». Et la femme à côté de lui dit « Je vais acheter une cravate ». Plus loin, on entend les bruits de chantier. C'est un chantier dans la rue d'un général. Général extraordinaire. Nous sommes le 21 juin 2015 et quelque part, un jeune garçon court encore, il court et il fuit dans la ville. Et il dépasse trois longs et maigres en uniforme. Et près de moi, j'entends une voix qui dit la poésie plutôt que le général. Je vois maintenant le corps du jeune garçon disparaître et moi je continue à marcher, je vois des corps silencieux au travail, près d'une veine creusée de terre. Rapidement, la division de bruit se fait plus faible. Maintenant, j'arrive au carrefour, un homme crie. Une femme se retourne.
Vous écoutez l'Atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture.
Il était une fois la première note d'une chanson échappée de délicates lèvres, aussi fugace que douce, aussi mystérieuse qu'amoureuse. Cette mélodie, expression même d'un corps et de son histoire, vient faire vibrer de bonheur mon tympan, destiné au premier contact de cette modulation venue jouer avec le silence. Et alors que sa voix vient de nouveau obnubiler mon attention, je sens mes muscles se tendre comme pour mieux s'ancrer dans mon fauteuil occidental aux couleurs d'une Afrique totémisée. Ma fréquence cardiaque s'accélère. Ma respiration devient plus marquée sous l'influence de mon système nerveux sympathique qui réagit à l'articulation complexe et mystique de ces tensions vocales entrecoupées de silences appuyés, réunies en une sobre harmonie des plus ineffables. Je m'abandonne donc au subtil déluge sensoriel généré par cette voix, portée et porteuse d'une paradoxale joie teintée de tristesse. Le souffle léger du vent vient effleurer ma peau et mes poils hérissés par un déluge de chaleur courant tout le long de mon dos. C'est alors que je prends conscience de la présence des autres spectateurs dont chacun savoure cette éphémère et inattendue richesse émotionnelle, mais la vivant aussi implicitement d'un corps commun à l'ensemble des personnes présentes. Portant alors le regard sur le garçon de service, il me sourit, renforçant en moi cette sensation de bien-être. Mon ami, dont la voix nous berçait si tendrement, laisse alors doucement le silence quotidien reprendre sa place. Et alors que la dernière note s'éteint et que les applaudissements emplissent le café, elle se tourne vers moi, me sourit et me rejoint, débordante de ces émotions dont seul le corps a le secret, capable de les générer mais aussi de les transmettre. Une note n'est pas qu'une note. Elle est l'unité indispensable à la totalité. Pierre-Louis Labrousse.
Il était une fois l'histoire d'un projet de livre numérique sur les sons. La pellicule d'un film Super 8 dont la bobine tourne à vide à la fin de la projection. Un ballon que l'on fait rebondir au sol en jonglant. Les impulsions électriques d'un modem ancien modèle. On peut entrer de deux façons différentes dans l'ouvrage. Par le récit ou par la constellation des sons. L'inventaire des sons est constitué par un ensemble d'écrivains, d'artistes, de musiciens, de photographes,
provenant d'un
à
village
qui je demande de participer amicalement
d'un
à
train
ce projet
éditorial,
en donnant chacun leur vision d'un frais, son qu'ils affectionnent au trafic
constant
sur une roue
forme d'un texte court, d'un dessin, d'une photographie,
d'une vallée de montagne,
ou d'une pièce sonore,
marcher sur un chemin en gravier.
Si le lecteur choisit l'inventaire sonore,
couler le sable,
deux modes de lecture se présentent à lui.
Soit il décide
la brosse,
consulter
l'intégralité des
sons dans l'ordre alphabétique de leur description
par les artistes
qui pensent
à ouvrir un ouvrage.
Le vaporisateur d'un
soit
il préfère le regroupement thématique lui proposé sous la forme d'une constellation de sons. Sons qui font battre le cœur, sons qui ne font que passer, sons désagréables, sons que l'on redoute, sons qui font naître un doux souvenir du passé, sons sans promesse, sons rares, sont embarrassants. Sons qui ne font que passer. Sons dont on néglige souvent la fin. Sons dont on n'a aucun regret. Sons ravissants. Sons particuliers. Un homme traverse la ville en aveugle, en demandant de l'aide aux passants qu'il croise sur son chemin. Chaque partie de son trajet constitue une portion de l'itinéraire final, aidé sur le chemin par différentes personnes qui lui tiennent la main, le conduisent, connaissant le chemin ou s'égarant avec lui, et qui lui parle, lui décrivent ce qu'il ne voit pas. Alors qu'il raconte ce que lui ressent, ce qu'il perçoit autour de lui sans le voir, ce qu'il entend, ce qu'il imagine, et ce dialogue qui se noue avec son guide passager. Il raconte ce qu'il entend dans ce trajet à travers la ville, dans sa nuit, à l'écoute. Des pas sur la neige. Les gouttes de pluie sur la vitre d'une verrière. L'ouverture d'un paquet de café sous vide. Le grésillement d'une ampoule qui va s'éteindre. Un baiser dans le cou. Une craie crisse sur le tableau noir. Le téléphone sonne dans un appartement vide. Les trois coups du brigadier avant le lever du rideau au théâtre. Les dents qui s'entrechoquent malencontreusement contre un verre. Le crépitement d'un flash de photographe à l'ancienne. Le grésillement d'une cigarette qui se consume. Une respiration haletante.
Et on était 20
2000. Voilà, on avait été d'abord écrémés sur des scènes, et puis ensuite on avait passé 10 jours de stage. À l'époque, il n'y avait que 2 tours à ce concours. Et moi, peu de temps avant, j'avais voulu arrêter. Pas forcément arrêter le théâtre, mais renoncer à présenter des concours. Je m'étais pris des volets de bois vert et puis des expériences pas très joyeuses de concours. Je m'étais dit que c'était pas pour moi. Et puis j'avais été rattrapée in extremis par des élèves du TNS à l'époque, qui étaient dans le groupe 26, qui m'avaient fait travailler, dont une grande comédienne maintenant qui s'appelle Nathalie Boutefeu, qui m'avait fait travailler pour ce concours, dont j'avais été reçue au premier tour, et puis j'avais fait le deuxième tour, le stage, tout en me disant, voyons voir, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, et puis on fera autre chose, on verra bien. Et donc je suis dans ce hall, et la directrice des études de l'époque nous a rassemblés pour proclamer les résultats. Et donc elle commence à égrener les noms des élèves à venir, des futurs élèves de l'école du groupe 28. Et j'entends mon nom. J'entends mon nom. C'était une naissance, en fait. J'étais nommée. Et donc je suis rentrée dans cette école et ma vie a changé. Elle a continué, mais c'était une vie d'actrice à partir de ce jour-là. Voilà, ça continue. C'est tout.
Il était une fois la rencontre avec mon avenir. C'était le 21 juin 1997. C'était un samedi et je préparais le baccalauréat théâtre expression dramatique. J'avais 17 ans et je possédais l'enthousiasme typique de mon âge, mais aussi ses angoisses vacillantes. Je me rendais avec entrain au lieu de répétition qui ressemblait à l'idéal que je me faisais de la vie. Une salle de spectacle, une forêt, un bar, des amis, et toutes ces images floutées par le partage et la sensibilité à fleur de peau de cet environnement fiévreusement et créativement libre. J'arrivais là avec nonchalance et plaisir. Mon esprit était à la fête et au partage. J'entrais dans ce théâtre, et après un passage au bar, je commençais à investir les quelques marches sombres menant aux places réservées aux spectateurs. Nous devions patienter, car le metteur en scène nous faisant travailler devait finir avec un ami qu'il préparait au concours d'entrée d'un théâtre national. Je gravissais tranquillement, puis je l'ai entendu. Lui, sa voix, celui qui répétait. Ses premiers mots perçus, autant qu'il m'en souvient Adam, ont résonné en moi comme un appel à la vie. Tout a changé en un instant. Mes certitudes ont sombré. Cette voix était celle que j'attendais, que j'espérais, et qui allait changer le cours de chaque seconde de ma vie. C'était lui. Il avait tout de rassurant et de perturbant à la fois, de déstabilisant, d'inquiétant, de vivant. Je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais que l'entendre, l'aimer et le rêver. Le cœur battait comme jamais. C'était lui. Et ce fut lui. Lui qui devint le seul, mon ami, mon amant, mon amour, mon mari, le père de mes 4 enfants, et la voix de chacun de mes chagrins, de mes doutes, de mes joies, de mes désirs, et de mes certitudes d'infini. Aucun son depuis, aucune sensation, aucune voix n'a jamais pu me faire reconsidérer mon choix et mon chemin instinctif de l'époque. Il était une fois, mais il fut une fois pour toutes.
The smart money's on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. And Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiancé's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time. And the orphans in their orphans, and memories like a train.
Il était une fois la saison des crudités. Pour cuisiner, j'aime m'occuper les oreilles. J'avais allumé le poste de radio. Ce jour-là, je captais, au vol, une lecture par un comédien. La voix, naturelle, était plaisante à écouter. Je n'en avais pas eu conscience tout de suite. Mes gestes s'étaient faits plus lents, ma gorge se nouait, un trouble s'insinuait en moi. Une ancienne peine semblait remonter à la surface. L'émotion a continué de monter, la voix de l'acteur s'est faite plus présente. J'ai entendu prononcer des mots qui sonnaient familièrement à mes oreilles. Patricia, Park John Bullitt, Kilimanjaro. Un décor de brousse s'offrit alors à mon souvenir. Le ton du lecteur monta en intensité, il s'alarma, il cria « King, King !» Un sanglot, desséché depuis longtemps, se mouilla à l'écoute de la radio. Comme ces roses de Jéricho qui font les mortes dans le désert, capables d'attendre des dizaines d'années pour reverdir et s'épanouir à la prochaine pluie. Les quelques mots sortis des ondes avaient suffi pour le ranimer. Je reconnus le livre. J'écoutais, depuis tout à l'heure, sans m'en rendre compte, des extraits du Lion, de Joseph Kessel. Petite, je l'ai lu, relu, allusé. Il y avait peu de livres chez moi, j'avais le temps de relire plusieurs fois ce qui me plaisait. À chacune de mes lectures, ce même sanglot, mais jeune, mais neuf, me plongeait dans le désespoir de Patricia, la petite héroïne du roman. Ce jour-là, à près de 53 ans, voilà que ça recommençait. J'étais encore Patricia, je l'avais toujours été, depuis mes 10 ans.
Christine Van Acker.
Il était une fois un 4 juillet. On m'a appelé, on m'a demandé de me rendre dans un endroit qui s'appelle Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est pour les fous. Sur le coup, je m'en suis pas trop inquiétée. Je suis arrivée dans une chambre. On m'a demandé de mettre des protections sur les cheveux et les pieds, une blouse. Et je suis rentrée dans une salle. Et là, il y avait deux bruits. Il y avait le tut, 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 tut. Puis comme un bruit de respiration. Comme une respiration, mais c'était beaucoup trop régulier pour être une respiration. Puis il y avait ce petit accrochage. On m'a dit que ça s'appelait un respirateur. Sur le coup, j'ai retenu que ça s'appelait un aspirateur, mais ça aspire rien du tout. Ça fait respirer quelqu'un. La personne qui était allongée, elle avait un tuyau dans la bouche. En fait, il n'y a pas d'histoire. pas d'histoire, il y a juste ces bruits qui restent. Elle s'était cognée la tête, mais on voyait pas la blessure. Et sur sa table de chevet, il y avait une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait des cheveux. Une poignée de cheveux. Quelle drôle d'idée. Ils avaient gardé les cheveux. Les cheveux qu'elle s'était pris dans une machine. C'est comme ça qu'elle s'était cognée la tête. Il n'y a pas d'histoire. Pas d'histoire parce qu'en fait, ça commence... Là où ça commence, c'est déjà fini. Et il n'y a plus rien dans le cerveau. Il n'y a plus d'activité. Il n'y a plus... Donc les machines, elles ne servent à rien. Le corps, il est encore vivant. Peut-être un peu comme quand on fait un meuble avec du bois. Bah, le bois, il est encore vivant, sinon il tombera en poussière. Mais ça pousse pas, ça bouge pas. Surtout si c'est verni, si c'est taillé, verni. Taillé, poncé, verni. Ça bouge pas. Là, c'était un peu pareil. Le corps, il était toujours bien, rose. Mais le cerveau, il n'y avait plus rien dedans. C'était tout plat. Ah, ça, ils ne le savaient pas tout de suite, mais ils ont fait venir une machine. Et la machine, elle a dit, il n'y a plus rien dans le cerveau. Donc, ils ont débranché les machines et se sont arrêtés. Voilà.
Bénédicte.
Donc il était une fois, et c'était il n'y a pas très longtemps, et c'était au bloc opératoire. Il se trouve que j'ai été pas mal opérée ces dernières années, et pour l'anesthésie, on ne trouve plus mes veines. Et pour me simplifier la tâche, maintenant on me met le masque et du gaz qu'on dit hilarant. Dernière fois, ça s'était pas trop mal passé, donc j'ai dit je veux bien le masque, c'était plus facile quand même. Et puis très rapidement, c'est très bruyant, ça bouge dans tous les sens, il y a même de la radio dans le fond du bloc. Et puis il y a une petite, je sais pas, un appareil qui fait bip, 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 bip. J'entends ça toujours en bruit de fond, en fait je le reconnais le son. Et l'anesthésiste se met à côté de moi et me dit le masque, ça va bien se passer, vous allez prendre des grandes respirations. Alors j'en prends une, voilà, c'est bien. Alors j'ai toujours mon bip de l'autre côté. Et je commence à respirer. Et en fait, le masque, on est obligé de respirer très fort. Donc, je respire. Et je respire. Et puis d'un seul coup, j'entends la voix de l'anesthésiste qui s'éloigne. Et en même temps, j'entends de l'autre côté le bip, bip. Et je l'entends qui fait penser à quelque chose d'agréable. Et là, je commence à partir en fait. Et j'entends de la techno. Et je me souviens d'il y a quelques années où je sortais en clubbing. Et je reconnais le son. Ça monte. Et donc j'ai le bip bip qui se transforme en musique. Donc là je sens que je monte, je danse en fait, je crois que je danse. J'ai mon anesthésiste là qui fait mon DJ et j'entends sa voix en écho. Ça va aller, c'est bien. On respire. Et à un moment donné, donc il doit bien voir qu'il se passe quelque chose qui va pas sur la table. Et il enlève le masque. Et d'un seul coup, je fais... Et je réalise que je suis pas du tout en train de danser. Je suis au bloc, je vois tout de suite l'heure en panique. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de vivre? Je suis parti d'un petit bip, bip, bip. Et de cet anesthésiste que j'ai pris pour un DJ, et je me suis dit, oh, il faut absolument que je le dise à Nico. Les mecs qui créent la musique électro, forcément, ils connaissent cette expérience de l'anesthésie. Et voilà. Et finalement, je pense qu'ils ont dû réussir à me piquer au bras, dans le pied, je me souviens plus, et je me suis endormie.
Il était une fois le souk, Muscat, sultanat d'Oman. L'appel à la prière se déverse à travers les coursives via des mégaphones pourris, amplifiés par une réverbération naturelle à cause de la hauteur de plafond. Immobile, j'écoute, sans m'apercevoir que mon micro est juste à hauteur d'un petit robot jouet d'enfant habillé en Père Noël, qui chante façon boîte à musique « Jingle bells, jingle bells, jingle all the way » sur fond d'appel à la prière. Il était une fois Flaubert, un soir, Lagos, Nigeria, Too Short, un habitué de Bogobiri, la guest house où j'habitais. Je lui dis que je suis française. Il me récite spontanément une page de Madame Bovary qu'il connaissait par cœur en anglais, heureux de partager un peu de ma culture. Et aussi le fermoir métallique, Badagry cette fois, toujours au Nigeria, le musée mémorial des esclaves déportés depuis cet endroit, le son du clip de collier de métal que des abrutis mettaient sur le cou des esclaves et que le gardien du musée s'acharnait à vouloir me faire essayer. Il était une fois un maquis aux alentours d'Abidjan, Côte d'Ivoire. J'écoute Kassoum slammer ses poèmes, lumineux et vivant, une espèce de dieu paumé dans un maquis. On se quitte au petit matin. Il était une fois une après-midi à Kousséri, le son du chari, Cameroun, la rivière au bord de laquelle nous dégustons un gros poisson pêché le matin. Il était une fois le Nil bleu, Khartoum, Soudan. On allume la radio satellite et aussi on écoute un instrument traditionnel de musique offert par mes amis participants qui s'étonnent que je ne sache pas en jouer. Il était une fois les rails, Nairobi-Mombasa, Kenya, 12 heures de train, une rotative régulière ponctuée par des freinages et des redémarrages intempestifs, un peu violents. Et aussi le couloir du wagon, le son de la cloche du chambellan habillé façon époque coloniale avec des gants blancs. Ding ding ding, dinner time, second service. Et aussi, la vitre télé de mon compartiment à travers laquelle je regarde défiler un prompteur somptueux. Une symphonie de couleurs rouges, ocre et indéfinissables. La terre d'Afrique, la traversée des villages, la danse des gens, majestueux et nonchalant. Le mouvement d'une biche qui tourne la tête vers le train. Le gong esthétique d'un baobab impressionnant ancré au milieu du désert. Il était une fois la rose des sables. Un bar campagne à côté du boulot, Abéché, le désert, le Tchad, à 30 km, le Darfour. Comme d'habitude, je vais voir mon ami à la fin de la journée. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses, tu crois pas? Comme tous les soirs, on s'installe dans le bar à ciel ouvert. J'écoute Tchindébé, 22 ans, me parler. Après 25 ans de pouvoir, il ne connaît toujours rien de ce qui est de sa minable taille sur l'échiquier politique national et international. Des propos bientôt couverts à 19h30 précises par une grosse télé qu'on installe au milieu de la cour pour suivre via TV5 Monde, question pour un champion. Il était une fois 3 minutes. Fabienne Guédi, ça on peut le couper.
Bah, c'est comme ça qu'on termine, non? Si, mais si, l'émission est terminée et la fin de l'atelier du son, c'est maintenant. Vous avez entendu les histoires de Sandrine Roblin, Kat Lucas, Laurence Garçon, David Brown, Emmanuel Gibello, Pierre Limousin, Enrique Pardo, Anna B., Pierre-Louis Labrousse, Pierre Ménard, Marianne Denelin, Christine Van Acker, Anaïs Denot, Bénédicte Cartron, Fabienne Guédi à l'instant et quelques anonymes et d'autres aussi dont on n'a pas pu utiliser les histoires, malheureusement. L'émission a été préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour, et au son ce soir il y avait Jean-Michel Bernaud. Pour aller plus loin, il y a franceculture.fr. Et dans un instant vous retrouvez Aurélie Charron, mais oui. Et voilà, 4 ans d'atelier du son qui prennent fin. On va se retrouver la saison prochaine, c'est prévu, c'est promis, sur des territoires guère éloignés. Il nous reste encore pas mal de choses à se dire et à explorer, et pas mal d'histoires à se raconter. On espère bien que vous serez au rendez-vous, et peut-être que d'ici là, j'aurai le plaisir de vous retrouver en juillet tous les jours de la semaine à 18h15 pour le grain à moudre. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture, et à la revoyure.
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous et bel été. On vous retrouve en juillet aux commandes du Grain à Moudre et dès septembre, le samedi soir à 23h. C'était la dernière semaine des ateliers de la nuit qui reviennent sous une nouvelle forme en septembre. Les ateliers de la création seront rediffusés tout l'été, le dimanche soir, de 21h à 22h, à partir du 12 juillet. Le premier, Variation Martin Luther King, médaille de bronze au New York Festival, par Pierre Potier, Sylvie Gasteau et Alain Joubert. N'oubliez pas, tout l'été, de podcaster les ateliers de la nuit, fiction, création, son, tout est sur le site internet de France Culture. Il sera bientôt minuit, c'est l'heure des nuits et c'est l'heure de l'été.